Portmanov n'a pas d'origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers. Le communiqué du procureur de la République de Nice est tombé il y a quelques heures. C'est le résultat de l'autopsie. Les conclusions des médecins légistes, la mort de JP serait donc d'origine médicale ou toxicologique. Marie Turcan, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça veut dire que ces tortionnaires ne risquent plus rien?
Alors, nous, à Mediapart, donc, on a sorti une première enquête en décembre 2024 qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur de la République de Nice. Donc, on fait bien la différence entre ces deux enquêtes. Cette enquête préliminaire, elle est aujourd'hui toujours en cours. Et on parle là de ces sévices, de cette diffusion des sévices. Il y a plusieurs chefs d'accusation. Et là, vous parlez-vous de la deuxième enquête, qui est tout aussi importante, qui était sur les origines de la cause de la mort. À ce niveau, pour l'instant, on n'a pas eu les analyses toxicologiques, ce qui veut qu'on les aura dans plusieurs jours. Ça va plus lentement. Donc, en réalité, il y a... Enfin, comment dire, ça change la donne ou ça change pas la donne, c'est pas forcément la question. Aujourd'hui, il va falloir... c'est une affaire complexe d'un point de vue juridique, c'est difficile à qualifier. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de coup qui aurait entraîné la mort de Jean Portmanov.
Le problème pour les tortionnaires, mais dans l'absolu, oui. Non, c'est toujours aussi choquant, ça change pas grand-chose pour la perception que tout un chacun a de cette situation. C'est toujours aussi choquant. C'est toujours aussi révélateur sur ce que ça montre à voir de la société française et de sa situation. Et puis, effectivement, ça pose de vraies questions sur le fait que, malgré plusieurs avertissements de la part de Mediapart, la ministre était aux abonnés absents, l'ARCOM qui a été saisi par la Ligue des droits de l'homme...
Il faut dire, il n'y a pas que Mediapart qui est... C'est ça qui est en plus, c'est le pouvoir public.
La Ligue des droits de l'homme a saisi l'ARCOM en temps et en heure. Là-dessus, il y a un énorme problème qui, en plus, est augmenté par le fait que, tout d'un coup, on a une ministre qui fait mine de s'apercevoir du problème et tout d'un coup, diligenter des enquêtes.
On va parler de la mobilité judiciaire, c'est... Ou personne, on va dire...
Complicité morale, alors.
Assermentée, de le dire. Toujours est-il qu'on a une situation où toutes les conditions sont réunies pour que des personnes souhaitant contribuer du temps de cerveau disponible ou de l'argent puissent le faire sans que rien ne se passe. Donc on sait, et les autorités savent, qu'il y a des problèmes. La question est qu'est-ce qu'on fait une fois que ces problèmes-là sont clairs. Je vais vous donner deux chiffres. Pharos, donc, qui dépend du ministère de l'Intérieur par une filiation un peu complexe, qui est une plateforme de signalement de tout ce qui est contenu problématique en ligne, de terrorisme jusqu'au pédocriminalité, en 2022 avait 20 personnes pour plus de 200 000 signalements traités par an. L'ARCOM, pour l'application, le suivi de la mise en œuvre et l'application du règlement sur les services numériques à 23 personnes. Donc, à un moment donné, on peut faire de la magie, on peut faire des miracles, mais on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que ces autorités-là protègent et agissent en temps et en heure.
Marie Turcan.
Chose au clair, le procureur de la République de Nice s'est saisi deux jours après la publication de notre enquête, ou une semaine. Le ministère public a agi plutôt rapidement. Une saisie du matériel informatique a eu lieu très rapidement également, et des gardes à vue ont été menées. À partir de ce moment-là, les streamers ont deux choix. Soit ils se disent on a compris qu'on a fait quelque chose de problématique et on arrête, soit on trouve toutes les manières possibles d'y revenir. Et en fait, ce que vous avez sûrement dit, ou qu'on va dire, c'est qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, et les spectateurs surtout, donnaient beaucoup d'argent pour que ça se passe. Et donc, quand on a cette masse de revenus par mois, on peut plus s'en passer. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois que leur matériel a été saisi, ils sont partis s'exiler avec le peu d'argent qui leur restait à Malte pendant quelques temps, pendant 3-4 semaines, pour streamer à nouveau, cette fois que des jeux vidéo, pour un peu calmer le jeu. Et ce qui fait que même moi, qui étais avec ma collègue Bérénice Gabriel, on suivait encore ce qu'ils faisaient pour voir, ça s'est calmé, entre guillemets. Et ensuite, petit à petit, le glissement a eu lieu, ils sont revenus à Nice, ils ont retrouvé leurs mêmes locaux, et ils ont repris petit à petit les violences. Pourquoi? Parce que c'est ça que les spectateurs appréciaient. Et c'est aussi ça qu'on est là aussi pour discuter et pour qu'est-ce qui faisait que, enfin, sur Internet, l'énervement fait vendre plus, qu'est-ce qui se fait, mais c'est aussi dans la société généralement et la société du spectacle, cet agacement et cette violence-là, elle faisait vendre, il récoltait quand même beaucoup de dons, on avait calculé environ 15 000 euros, ça s'élevait à beaucoup plus, c'était quasiment 20 000, 30 000 euros par mois à se séparer en pas beaucoup de personnes. Ouais. Donc, et ces spectateurs-là aujourd'hui, ben, je vais finir là-dessus, ces spectateurs-là aujourd'hui, j'en ai encore parlé à un tout à l'heure parce qu'on va ressortir de nouveaux articles, ils assument encore aujourd'hui, en fait. Ils disent, ah oui, c'est les médias qui ne comprennent pas. C'est 28 minutes qui ne comprennent pas.
D'accord, ouais.
C'est nous qui ne comprenons pas. C'est Mediapart qui ne comprend pas. Depuis le début, on n'a pas compris leur délire. On est des haters.
Des gens qui détestent, en fait, c'est ça, qui détestent.
Il y a eu un mort, en fait. Et en fait, ce mort, eux, ils disent, on l'adorait, mais on adorait aussi qu'il souffre.
Ouais, c'est ça.
De 2004, d'abord, la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui impose aux plateformes ou à l'hébergeur de retirer un contenu manifestement illicite. C'est-à-dire, si un contenu contraire à la loi est signalé, l'hébergeur est dans l'obligation de le modérer, voire de le bannir. Puis on a une autre loi, adoptée en 2024, la loi qui vise à sécuriser et à réguler l'espace numérique pour censurer directement des contenus problématiques comme la torture ou les actes de barbarie. Puis on dispose aussi de plusieurs acteurs et de plateformes gouvernementales, l'ARCOM donc, qui depuis 2022 régule les plateformes et qui peut demander à la justice le blocage d'un site. Et puis vous l'avez évoqué, Pharos, le portail officiel de signalement mis en place par le ministère de l'Intérieur en 2009. Alors, la plateforme Kik, elle est australienne, mais elle cible des usagers européens. Et elle est donc censée respecter la réglementation européenne, et notamment le DSA, le Digital Service Act, qui lutte contre la propagation de contenus illicites en ligne. Le DSA concerne les très grandes plateformes, et depuis 2024, tous les acteurs du numérique. Donc en cas de signalement, les plateformes ne sont pas tenues responsables du contenu, mais elles ont l'obligation d'agir. Fabrice Epelmont.
3-4 mois, on a eu des auditions parlementaires à propos de la modération des contenus, et on a appris à l'occasion, dès la bouche de Google, tout comme de celle de Meta, que non seulement il y avait cet arsenal...
Meta, c'est Facebook. Hein.
Meta, Facebook, Instagram, YouTube... qu'il y avait non seulement cet arsenal juridique qui venait de toutes parts, mais que de toute façon, il suffisait qu'un ministre passe un coup de téléphone pour obtenir une censure. Donc on pouvait passer allègrement au-dessus de la loi. On est dans une espèce de millefeuille à la fois légale de choses qui sont tout à fait en dehors de la loi, qui malgré tout n'ont pas donné le moindre résultat dans le cas de figure. Il y a même une volonté de dépasser le cadre de la loi et d'aller par-dessus la loi. Mais visiblement, ça ne marche pas.
D'appliquer ces règles ?
La question reste toujours la même. C'est, admettons que je veuille faire un régime pour perdre du poids. Sur une journée, je me dis, là on y va, salade, salade, salade. Est-ce que je vais tenir une semaine, un mois ? Est-ce qu'une fois que je serai arrivée à mon poids désiré, est-ce que je change, en fait, de comportement alimentaire pour maintenir ce poids cible ? Là, c'est la même chose. Les règles existent, et je me permets de compléter votre présentation sur le DSA. Il concerne toutes les plateformes, donc le Digital Services Act ou le règlement sur les services numériques, comme l'appelle l'ARCOM.
C'est vrai, bien sûr.
Voilà, RSN. Il concerne toutes les plateformes servant, en fait, les usagers européens. Et il y a une responsabilité à renforcer sur les très grandes plateformes, donc Meta, enfin Instagram, etc., donc celles qui ont minimum 45 millions d'utilisateurs actifs sur le territoire européen, ce qui est en fait 10% de la population de l'Union. Parce que la responsabilité est renforcée pour eux, c'est parce qu'on estime que 10%, c'est un risque systémique. C'est beaucoup trop important.
Important, ouais,
voilà. Mais cela ne signifie pas que des plateformes qui ont moins d'utilisateurs, telles que Kik, en sont exclus de ces exigences. Et donc là, la question, et c'est, je reviens à ma métaphore avec le régime, c'est qu'on a les règles. Est-ce qu'on peut poursuivre leur implémentation ? Est-ce qu'on peut commencer à taper sur les doigts, si vous me permettez le familier, aux gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire ? Et à un moment donné, on fait quoi on est allé suffisamment loin.
Fabrice,
alors il faudrait vraiment demander à un juriste. Hein. Je ne sais pas si on peut le faire. On peut très certainement leur taper sur les doigts très fort. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Est-ce que ça va résoudre le problème ? Non, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire baisser la fièvre. On a un vrai problème. Les réseaux sociaux, dans ce cas de figure, nous servent de révélateurs et d'amplificateurs également. Mais c'est, encore une fois, pas en cassant un thermomètre qu'on règle quoi que ce soit. Ça revient à mettre du fond de teint sur un syndrome de Kaposi. Ça n'a jamais soigné qui que ce soit. On a un réel problème de société. Pour le coup, il serait peut-être utile d'utiliser les réseaux sociaux pour regarder les choses en face plutôt que d'accuser les réseaux sociaux, ce qui est traditionnellement le cas.
C'est à propos de
Twitch, qui est la plateforme de streaming la plus connue, la plus populaire, et qui régulièrement élimine tout un tas d'utilisateurs qui vont trop loin.
D'accord.
Kick servant de dépotoir.
Ah oui.
Et d'ailleurs, ce garçon qui est mort a été expulsé de Twitch en 2023, je crois.
Oui, un peu avant.
2022.
D'accord.
Donc c'est
là où on pourrait trouver refuge en fait.
Si les gens sont à nouveau dégagés de Kick, ils iront sur une autre plateforme qui servira de dépotoir.
Ouais. Cette affaire, elle a beaucoup de ramifications. Elle a notamment des personnes plus âgées qui comprennent peu ce qui se passe en ligne et qui tendent à penser que tout ce qui se passe en ligne peut être mal. En fait, on l'a rappelé hier aussi, être fan de quelqu'un, c'est pas grave. À faire partie d'une communauté en ligne, c'est pas grave. Utiliser Twitter, utiliser Facebook, c'est pas grave en soi.
Les jeux vidéo,
les jeux vidéo encore moins. Et là, en plus, Kick n'est pas vraiment un réseau social, c'est une plateforme de diffusion de vidéos avec un chat interactif où les gens pouvaient discuter et donner des dons et injurier les personnes. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est la manière dont cette communauté s'est formée. Et donc, ils ont d'autres, encore des messageries encore moins connues pour peut-être le grand public, mais on est sur Discord, on est sur Telegram, on est sur des endroits où là, c'est là où ce qui est intéressant, c'est comment ils construisent ce groupe et cette communauté. Et je vous en parlais tout à l'heure, cette communauté qui, malgré, là on est quand même sur une affaire nationale. Moi je comprenais que quand j'étais en décembre, on était deux à envoyer des messages et à leur dire vous comprenez ce que vous faites, ça peut être illégal, qu'ils nous envoient un peu balader, mais là il y a quand même une grande partie de la France qui se sent concernée par ce qui se passe. Mais malgré tout ça, ils restent soudés entre eux, et donc il y a une question qui doit se poser là sur la construction de la masculinité. Ça reste une grande partie d'hommes sur cette construction par la violence, par les invectives, par le fait que cette sociabilité, elle est intense. En plus, ça passe par c'est de l'amour aussi pour eux. C'est ça qui est très nébuleux et qu'il faut aussi pour comprendre le problème dans son ensemble. C'est très bien de parler des plateformes, comme vous l'avez dit. Comme je vous rappelle, quand ils sont partis à Malte, ils ont streamé sur une autre plateforme.
D'accord,
c'était plus Kick, c'était. Donc en fait, fermer Kick. Oui, pourquoi pas sanctionner Kick fortement, pourquoi pas, mais finalement c'est pas là le problème. Par contre, on a des outils juridiques et on a aussi des enquêtes en cours, et quelqu'un qui frappe quelqu'un en direct, qui lui fait du mal volontairement et qui diffuse ses images sur le web, ça peut être sanctionné pénalement, mais le temps de l'enquête est très long, et aussi le peu d'enquêteurs, comme Reina vous l'avait dit, de cyber-enquêteurs formés à ces sujets et minimes.
Chez Kick, il y a, et je reprends la notion de ramification, Kick à la base, c'est une plateforme qui est un peu, oui, le dépotoir de Twitch, mais qui est fondée par des personnes qui, en fait, dont le business principal, c'est les jeux en ligne. C'est un truc de casino, si vous voulez. Et donc, ils vont vous expliquer qu'il n'y a pas de pub sur Kick. En fait, c'est faux. Il y a de la pub pour des jeux d'argent, dont ceux qu'ils font, eux. Et donc, vous avez énormément de choses, en fait, et d'influences là-dedans qui sont sous prétexte de donner un espace d'expression qui est libre et porteur pour leurs créateurs de contenu. C'est ça, la façon dont ils formulent ces aspects-là. En fait, eux, derrière, c'est un fondé, si vous voulez, pour des intérêts qui sont liés à des jeux d'argent et donc à des choses qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo.
Sur les divertissements anciens, on a eu droit au Loft en 99, hein, qui a l'émission a été vraiment eu un succès phénoménal en termes d'audience, et qui était basé sur le même principe, de l'humiliation transmise à la télé. Et puis on a énormément avancé. Cyril Hanouna, qui en a fait quelque part son modèle économique à lui aussi, mais dans tout un tas d'autres médias. Je crois que Quotidien a été rappelé à l'ordre par l'Arcom récemment pour avoir eux aussi humilié des gens en difficulté. C'est devenu un phénomène de société très large. Alors effectivement, on peut remonter aux racines du lancer de nains, qui avait quand même eu le mérite d'avoir choqué tout le monde à l'époque,
oui.
D'être un micro-phénomène avec un micro-public. C'est devenu un phénomène de masse avec un public de masse en 99 avec le Loft. On est en 2025, aujourd'hui le phénomène est totalement enraciné. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve des adultes qui sont spectateurs de telles horreurs. C'est que concrètement, c'était des jeunes qui regardaient Loft et qui aujourd'hui sont des adultes avec un âge qui commence à être avancé.
C'était mise en scène. Et tout va un peu se détailler autour de ça. C'est-à-dire que on pourrait potentiellement aller même poursuivre jusqu'au spectateur qui paye pour voir des délits être commis, sauf si ça a été mis en scène. Et donc, tout le travail maintenant, ça va être de montrer si mise en scène il y avait, si les coups étaient réels ou non. L'autopsie a montré qu'en tout cas, il n'y a pas eu de coup qui a entraîné la mort. Il y a les images quand même. Nous, on avait vu des images de la personne handicapée qui se faisait tellement taper fort qu'un bleu apparaissait en direct.
Il y avait une deuxième personne, en effet, qui était...
La deuxième personne, surnommée Koudou. Moi, je travaille sur les discriminations à la base, donc pour nous, c'était important aussi de montrer d'abord ça, parce que les personnes handicapées sont extrêmement discriminées dans notre société très validiste. Et en plus des concepts physiques, il y avait des concepts d'humiliation verbale, donc de développer des concepts pour se moquer du handicap. Donc il faisait des espèces de questions pour un champion autour d'une table et il leur posait des questions de niveau CE1 à Jean-Paul Manofcom, à la personne handicapée, et il se moquait des résultats. Et ces scénettes-là, elles sont, et on en revient en plateforme, elles sont extraites de Kick par des fans, ou pas juste des gens avides de buzz, et ensuite ils les mettent partout.
Ah oui, d'accord.
Sur TikTok, Jean-Paul Manof, il avait 500 000 abonnés. C'est beaucoup plus que sur Kick. Donc il y a TikTok, sur YouTube, il y a des clips qui sont encore en ligne aujourd'hui. Sur Twitter, sur X, j'en parle même pas parce qu'aujourd'hui tout se passe sur X et rien n'est modéré. Donc c'est une nébuleuse et c'est pour ça que on peut s'intéresser à Kick et nous à Mediapart on a quand même, on les a alertés en décembre, on les a alertés en janvier, ils nous ont toujours répondu très succinctement et honnêtement il y a pas moyen qu'ils réussissent à justifier qu'ils n'étaient pas au courant. Donc eux pour le coup c'est même un peu terminé cette histoire, je dirais. On peut, c'est le moment de penser un peu plus loin quoi.